Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Et je vais lire une des lettres qui a été écrite aux églises. C'est dans Apocalypse, chapitre 3, verset 14. « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, au verset 14, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les lettres qui ont été écrites dans l'Apocalypse, Ben, tu m'as ouvert le chemin, j'ai dit yes, moi. Puis Gilles m'a ouvert le chemin aussi avec un père qui parle avec son enfant, vraiment franchement. Je me suis dit, ah, ça c'est un bon verset pour ce matin. Ce sont des églises qui sont écrites à ceux que Jésus aime, et ceux qu'il aime, c'est tous les hommes. Et ici, c'est l'Église visible. C'est pas l'Église des rachetés, c'est l'Église telle qu'on la voit dans la société. Il souhaite pour cette église-là qu'elle ne soit pas, elle ne paraisse pas riche, mais qu'elle soit riche. Il souhaite qu'elle ait une vision parce qu'elle se voit riche, mais elle est pauvre. Il souhaite que sa vision soit rectifiée sur elle-même afin qu'elle voie cette église-là, qu'elle est pauvre, misérable et dévêtue. Afin qu'elle soit vêtue, qu'elle soit riche, hein? Donc il prie pour ses yeux. Il demande à ce que ses yeux soient corrects. D'acheter un collier pour ses yeux. Aujourd'hui, le message, c'est un message pour donner un collier pour nos yeux, pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'Église visible moderne. C'est une série critique sur l'Église moderne, puis c'est pas un message que j'ai capoté à préparer. Parce que je me parle à moi-même, puis je nous parle, puis l'Église Grâce et Vérité, le pasteur, les anciens, puis je parle à toute l'Église dans le fond. Puis, j'essaie de montrer un petit peu le thermomètre de l'Église nord-américaine par cette série-là. Donc, la semaine passée, faire des disciples. Ah oui, on va avoir la vidéo, on va le faire passer après. On va le passer après, à la fin de mon message. Ça marche? Excellent. Donc, la semaine dernière, on a parlé que notre rôle en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'était de discerner le monde dans lequel on vit. Le poisson, il se pose pas des questions s'il est dans l'eau, puis l'oiseau, il se pose pas des questions s'il est dans l'air. Mais le chrétien n'est plus de ce monde et il doit se poser la question, est-ce que je suis dans le monde? Est-ce que je suis du monde ou je suis dans le monde? Donc, on doit se poser la question, dans quel monde qu'on est, parce que peut-être que la pensée du monde, elle nous a infiltrés, puis la Bible a dit, ne soyez pas conformes à la pensée de ce monde. Et on a vu que dans le message de la semaine passée, parce qu'on transigeait dans le monde, ça voulait pas dire qu'on était dans le monde, mais on a commencé avec un vieux démon qui parle à un jeune démon, et voici ce qu'il lui dit dans la Screwtape Letter d'un livre de C.S. Lewis. Le vieux démon, à quelque part, il dit au jeune démon, que les hommes, à force de faire des transactions dans le monde, à force de s'acclimater au monde, le monde va s'acclimater s'ils trouvent leur place dans le monde, s'ils accroissent le nombre de leurs richesses, le nombre de leurs amis, s'ils accroissent leur importance dans le monde, ils vont finir par se croire faisant partie de ce monde-là et ils vont penser qu'ils sont à la maison. Et le vieux démon de dire au jeune démon, c'est exactement ça qu'on veut faire. Parce que, il dit, ce qu'on veut, c'est qu'ils pensent qu'ils sont dans le monde, qu'ils font partie du monde, mais il dit, ce qu'on veut, c'est que le monde soit en eux. Et donc, on avait commencé le message avec ce casse-glace-là. Puis, ce que l'ennemi veut essayer de faire, c'est de nous faire penser, et à ceux qui ne sont pas croyants aussi, de faire penser aux hommes et aux femmes que tout ce qui existe, c'est tout ce qu'il y a. Que tout ce qu'on voit, c'est le monde actuel. Marie-Ève, qu'est-ce qu'elle nous a parlé à propos du banquet de Noël? C'est merveilleux. Elle nous a donné une vision. Elle disait, hey, j'enseigne sur les choses invisibles. Le chrétien, les choses invisibles. Il y a d'autres choses après. Il y a d'autres choses après pour vos proches aussi. L'éternité, c'est long, longtemps. Tout le monde n'aura pas toute la même destinée. Et donc, le monde est fait présentement pour nous étourdir. On a vu dans le message comment qu'on avait un lien beaucoup avec la consommation et que l'homme ne fera pas face à son Créateur un jour pour rendre des comptes et que le Dieu qui les aime a tellement quelque chose de bien plus grand que qu'est-ce qu'on a sur la terre. En pensant juste aux choses de la terre, on oublie qu'il y a un Dieu qui aime, qui nous aime éperdument et qui nous réserve une éternité formidable. Et donc aujourd'hui, je veux parler de l'importance de prendre sa place dans le monde en tant que disciple. Dans mon dernier message, on a parlé des grandes églises aussi. On va avancer à la prochaine acétate. On a parlé des grandes églises et on avait défini que le succès était d'amener plusieurs personnes dans nos églises à une connaissance. Ils ont eu un succès. Bill Hybels, qui a fondé Willow Creek en 1975, ont amené aujourd'hui ont des rassemblements, trois rassemblements avec 26 000 personnes à chaque dimanche qui se rassemblent encore. Ils ont réalisé des choses, ils ont vu que oui, ils avaient réussi à amener les gens à une connaissance d'un Jésus qui sauve, mais Bill Hybels a dit, nous avons fait une erreur. On a eu beaucoup de gens, mais on n'a pas eu la profondeur du cœur. Donc, c'est des gens qui aiment la musique. C'est des gens qui aiment les orateurs, ce sont des gens qui aiment être divertis, mais il dit on n'a pas été profond dans le cœur. Et donc quand les gens devenaient chrétiens, il disait nous aurions dû mettre l'emphase sur la responsabilité que ces nouveaux croyants ont de se nourrir eux-mêmes de la Bible entre les rassemblements et de développer eux-mêmes les pratiques spirituelles. Aujourd'hui, le titre de mon message c'est une église pour moi. Vous trouvez pas que c'est un mot trendy? C'est pas une expression populaire, une expression à la mode. Il me semble que ça ferait un bon titre de message. Vous ne trouvez pas une église pour moi? Et donc, je vais vous laisser deviner dans mon message si ce titre est positif ou négatif. Une église pour moi. Je vais aborder comment la mentalité du monde a affecté l'église et la formation de disciples. Je vais parler des pièges qui paralysent nous, les membres du corps de Christ, et quels sont les mensonges qu'on croit qui nous ont amenés à perdre notre sel? C'est pour ça que je l'ai appelé « Pourquoi l'Église moderne a perdu son sel? » Je vais vous rappeler encore que la série, c'est une série critique du christianisme moderne. C'est une critique contre l'Église LGV, son pasteur et les autres églises. Ok? Fait que critique pas dans le sens de l'attaquer jusqu'à temps qu'elle tombe, mais de lever le dessous de la table pour voir qu'on a balayé des tas en dessous de la table. Puis on faut aller chercher ça puis nettoyer la place, on peut dire. Donc, c'est une réalité qui est difficile. Puis, à la fin de mon message, j'ai pas la prétention qu'on va s'être converti à nouveau puis que tout va avoir changé, mais ça se pourrait que notre véhicule allait pas dans la bonne direction puis qu'on change quelques degrés. OK? Donc, le message va soulever plus de questions qu'il va répondre à des questions, mais par la grâce de Dieu, je pense qu'on va mieux comprendre comment Dieu travaille, puis on va voir comment on peut se joindre à ce mouvement-là. La Syrie est née aussi d'un désir que j'ai de voir, avant que le Seigneur revienne nous chercher, un mouvement de plusieurs personnes qui se convertissent à Jésus puis qui en amènent eux-mêmes d'autres personnes à lui. OK, on va commencer avec un petit vidéo. Juliane va nous faire jouer un vidéo d'un film qui s'appelle « Un monde meilleur ». Ça a joué en 2001, ce petit film-là. C'est un film de 2 heures. Je l'ai écouté pour m'inspirer hier, parce que le livre que je lis sur la formation de disciples, il dit que ce serait une bonne façon de partir un sujet de discussion. Puis j'ai trouvé que oui, en effet, c'était un très bon film que je vais regarder plusieurs fois.
Le monde risque d'être une immense déception. À moins de décider que toutes les choses que l'on n'aime pas dans ce monde, on les fasse basculer à 180 degrés, cul par-dessus tête. Tout de suite.
Ça, c'est moi. Et là, 3 personnes. Je commence par leur rendre service, et ils passent le relais en faisant pareil pour 3 personnes. Ça en fait 3 autres. Mais il faut que ça soit un truc important. Un truc qu'ils pourraient pas faire tout seuls.
On a des petits ennuis de voiture. Je peux vous aider.
Attendez, vous m'offrez une Jaguar toute neuve et vous voulez rien en échange?
C'est possible.
Qu'est-ce que vous êtes allé dire à mon fils pour qu'il ramène un SDF à la maison?
Alors moi j'ai un article, ok? Un ténor du barreau de Los Angeles offre des Jaguars toutes neuves.
Fais passer le relais. Suffit de rendre un grand service à 3 personnes.
Ça? On ne peut pas obliger les gens à s'aimer.
Mais c'est justement pour ça.
Passe le relais.
Passer le relais?
C'est genre une idée.
Ça m'est égal que vous soyez brûlé, Eugène.
Je peux pas.
Pourquoi vous êtes si lâche?
Trevor, je ne suis pas lâche.
Quand ça va arriver, il sera trop tard.
Non, surtout pas de pitié. Garde là, j'en veux pas.
Pourquoi? Parce que vous avez peur que je vous jette. Comment voulez-vous que je vous jette? Vous êtes trop rapide pour moi.
Tu vas passer le relais? Donne-lui encore une chance. Pour moi.
Quand quelqu'un s'amène comme votre fils, qui vous tend la main, et bon, on s'y accroche, même si c'est celle d'un gosse.
Passez le relais. Le mouvement est arrivé jusqu'à Los Angeles.
C'est une blague, le mouvement?
Je voulais voir si le monde pouvait changer. Ça veut dire que vous nous ferez redoubler si on change pas le monde?
Vous passerez dans la classe supérieure de justesse.
On a un professeur qui, je pense que c'est des élèves de 6e année. En tout cas, il leur donne un devoir, et le devoir, c'est de trouver quelque chose qui ne va pas dans le monde, puis c'est de le changer. Fait qu'il faut qu'ils trouvent quelque chose, ils les laissent aller, puis il faut... C'est pas obligé de marcher, il faut juste qu'il essaye. Et l'enfant, le jeune que vous voyez là, il est naïf. Et puis, tout au long du film, on s'aperçoit, bon, une femme a été sauvée du suicide, un autre a été sauvé de ci, un autre a été sauvé de ça. Fait que le film commence avec un accident de voiture, puis c'est le journaliste, dans le fond, qui est sur les scènes comme d'un crime. Puis, les policiers ils disent, « Attends, là, t'as pas d'affaire ici. » Puis, finalement, son char est juste en face de où ce que le bandit sort. Fait qu'il fonce dans son char. Puis, il y a un gars, vous voyez, qui lui remet une Jaguar. Puis, ce journaliste-là, dans le fond, ce que lui, il essaie de faire, c'est de revenir en arrière pour essayer de voir pourquoi ce gars-là m'a donné un Jaguar. Puis, lui, pourquoi il a fait ça? Ben lui, c'est parce que quelqu'un avait fait quelque chose pour lui avant. Puis là, il va comme ça de fil en aiguille. Puis, il s'aperçoit que tout a commencé à cause du devoir de ce professeur-là. Très intéressant, le professeur lui-même se fait prendre dans son jeu comme un boomerang qui lui revient dans la figure. C'est vraiment un beau film. Dans ce film-là, on s'aperçoit que le jeune, il marque, tu sais, il dit « Je vais te rendre un service à 3 personnes, puis les personnes à qui je vais rendre un service qui peuvent pas faire rien pour eux, eux autres aussi, ils vont rendre un service à d'autres, tu sais. » Mais il dit « C'est un rêve, tu sais. C'est un rêve, puis est-ce que c'est possible, dans le fond? » Fait que tu vois qu'il fait des X à un moment donné sur ses rêves, tu sais. Fait des X, puis tu dis, voyons donc, j'ai essayé avec cette personne-là, puis garde, ça n'a pas marché, il est retourné, le sans-abri est retourné dans son ancienne vie, ou peu importe, tu sais, fait que là, il fait des X, tu sais, mais il y a une histoire qui continue, là, que lui, il ne sait pas. Là, ça fait des petits, cette affaire-là. C'est vraiment beau. Dans le fond, il y a des doutes, il y a des déceptions, il se demande si ça a eu de l'impact. Finalement, on découvre qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer, qui a atteint d'autres villes aux États-Unis à cause du journaliste qui remet tout ça en valeur, tu sais. Et donc, il y a quelques personnes dans la chaîne qui ont décidé de prendre au sérieux l'appel d'avoir reçu quelque chose, une faveur, puis de aussi faire quelque chose pour son prochain. La condition était de faire quelque chose qui était difficile, que la personne ne pouvait rien faire pour elle-même. C'était un service important et trois autres personnes, il y avait trois personnes à impliquer dans ça. Puis à un moment donné, le jeune, il dit au prof, il dit, ça marche pas, ça marche pas. Puis le prof, il dit, oublie pas, j'évalue pas le résultat, j'évalue la démarche. Un peu comme quand on faisait de la mathématique, puis il nous disait, même si t'as pas la bonne réponse en bas, fais-moi une démarche, montre-moi un chemin que tu as pris pour te rendre, je vais aussi te récompenser pour ça. Maintenant, plus proche du sujet d'aujourd'hui, et je vous recommande ce film-là, c'est vraiment un bon film. Donc, plus proche du sujet d'aujourd'hui, j'ai aussi été influencé ces dernières années par T4T en Chine. Training for Trainer, c'est un livre que j'ai lu quelques fois. J'ai aussi fait un petit cours là-dessus pour nous aider à essayer de rentrer dans ça. J'ai fait ça peut-être pendant 3 ou 4 mois, cette approche-là, mais bon, ça demandait du temps, puis présentement, je suis pas en train de mettre ça en application ici à l'Église. Puis c'est une des choses qui rend difficile que je prêche là-dessus, c'est que je prêche sur quelque chose vers où je veux aller, mais qu'on n'est pas en train de faire. Okay? Là-bas, dans le fond, je vous en ai déjà souvent parlé, mais c'est T4T, Training for Trainer, c'est que chaque croyant est considéré dans ce mouvement-là comme étant un entraîneur qui, lui-même, après qu'il se soit converti, est responsable de conduire sa famille, ses amis, son cercle d'influence à la connaissance qui sauve de Jésus, puis à faire des disciples, des gens qui ont cru après lui. Qu'est-ce qui fait de toi là-bas un pasteur? C'est que tu as cru avant tes frères et sœurs. C'est un peu ça l'idée, là. Fait que ça a fait un mouvement qui, en une décennie, il y a eu plus de 1,6 million de baptêmes, des gens qui se sont fait baptiser, puis qui ont amené beaucoup de gens au Seigneur. Donc, un mouvement qui a pris de l'ampleur. Dans Matthieu 28, 19, c'est écrit « D'aller et faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de les enseigner à observer tout ce qu'il nous a prescrit, et qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Un disciple, c'est quelqu'un qui va croire, qui va être baptisé, mais c'est aussi quelqu'un qui va apprendre à observer tout ce qui nous a été prescrit. Et pour fermer la boucle, c'est quelqu'un qui va aussi par toutes les nations puis qui fait des disciples. Donc, ça, c'est chacun d'entre nous. Pour Dieu, en vous, il y a la semence de l'Église. On vous pitch sur une île déserte, il y a une Église à cet endroit-là. Vous êtes tout seul, il y a 5 autres non-croyants, il y a une Église sur cette île-là. Et elle est en vous. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, on va poser la question, pourquoi est-ce que c'est différent en Occident en Chine, par exemple, ces mouvements-là? Je vais parler de 2 grandes raisons pourquoi est-ce que en Amérique du Nord, ça ne fonctionne pas, c'est la formation de disciples, où ce que tu as accepté le Seigneur, tu conduis ta famille, tu les formes comme disciples, puis les autres s'en vont, puis ils vont en gagner d'autres aussi. Pourquoi ça fonctionne pas? Et c'est à la vision de consumériste de l'Église. La vision consumériste de l'Église, on va citer des choses qu'on a dites la semaine passée dans le message, mais je vous encourage à écouter le message de la semaine passée si vous n'avez pas pu l'écouter. Deuxièmement, on limite la formation de disciples à un petit nombre. Donc, on a une petite vision de la formation de disciples. Et à cause de ça, en Amérique du Nord, ça fonctionne pas, le modèle que Jésus... Ben, en fait, c'est pas que le modèle fonctionne pas, le modèle que Jésus nous a donné, c'est qu'on a des problèmes, on a ces 2 gros problèmes-là. OK, on revient au titre de mon message, « Une église pour moi ». Le titre est négatif, il est pris dans son sens négatif. La semaine passée, on a parlé que notre société était dirigée par le consumérisme. Le consumérisme, on pourrait le définir comme ceci. Il y a un service ou un produit qui offre un sens, une identité, un but et une appartenance à ses dévoués. On a vu que aujourd'hui dans la société, la paix intérieure, le sens à ma vie, la direction, elle est dans un produit ou un service qui me manque. Et là, les marketing se fait tout autour de remplir ce vide-là qui a la forme de Dieu, comme disait Pascal. La Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. Donc, on est dans, sans dire que bibliquement, le consumérisme qui définit notre société comme ayant trouvé un sens à cause de ce qu'il consomme et de ce qu'il possède, c'est pas à proprement dit une idolâtrie. Mais, théologiquement, on peut arriver à cette conclusion quand même. Parce que tu vois ici, Paul le fait. Il dit que la cupidité, l'amour des biens, l'amour d'avoir des possessions, c'est une idolâtrie. Pourquoi c'est une idolâtrie? Parce qu'elle substitue à Dieu qui nous donne un sens, une identité, un but et une appartenance. Elle substitue à un produit ou un service ce que Dieu nous a créé pour être comblé par lui et par la parole de Dieu. Donc, les choses sont et doivent être utilisées. Merci Seigneur pour les choses, merci pour la technologie, merci pour tous les moyens. Les choses doivent être utilisées et les gens et Dieu doivent être aimés. Et c'est là que le croyant, on doit venir faire la ligne de partage. Les choses sont utilisées, les gens et Dieu sont aimés. Une église pourrait offrir un ban de louanges extraordinaire, des événements à nous étourdir, des choses, des happenings, du divertissement. Le message qu'une église, ce qui arrive, c'est qu'une église qui utilise un modèle commercial pour discerner, un, les consommateurs et les produits et services que ces consommateurs-là ont besoin pour revenir la semaine prochaine. Un enseignement sur le mariage, comment éduquer nos enfants. J'aimerais savoir votre attention, s'il vous plaît. Et qu'elle travaille sur l'attraction beaucoup pour cibler des consommateurs puis les attirer dans son service ou son produit. Cette église-là envoie le message à ses membres qu'elle n'est pas connue pour sa formation de disciples, mais un endroit pour recevoir des services et avoir des besoins qui sont rencontrés. C'est pas faux que l'église est un endroit où on est servi et on se sert mutuellement. C'est un endroit aussi où ce que, oui, mon mariage va aller mieux. Oui, je vais savoir comment éduquer mes enfants. Mais quand l'église se vend beaucoup à l'avant-première dans son image corporative, c'est-à-dire logo, musique, puis qu'elle vend cette idée-là, les membres ont compris que ce qu'on cherchait à faire, c'est d'avoir plus de consommateurs pour ce service. OK? Mais le problème avec ça, c'est que l'Église perd de son impact en termes d'être connue pour sa formation de disciples qui vont former des gens à en former d'autres. Et si cette Église tarit dans son service, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont dire, cette église ne rencontre plus mon besoin. Je vais me trouver une église qui comble plus mon besoin. Et ça, c'est un gros problème quand on a créé, parce que c'est nous qui les créons, d'une certaine manière, les consommateurs. Hein? Ou en tout cas, on les attire puis on les entretient, les consommateurs. Donc, une personne qui a adopté la vision du monde de considérer l'église comme un produit ou un service que moi, il faut que je vienne me faire servir, vous allez entendre des phrases comme ça, puis je les ai entendues souvent, ces phrases-là. Je ne suis pas nourri. Cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'Église existe pour moi. Une Église pour moi. Et c'est là le problème. Parce qu'on a dit, au début de ma série, j'ai dit, la formation de disciples, c'est viens et vois, puis après ça, c'est viens et meurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les disciples, au début, sont venus parce qu'il y avait quelque chose qui les intéressait à propos du Seigneur Jésus, de ses enseignements, qui n'étaient pas pareils comme les pharisiens. Il y avait donc l'attraction. C'est pas négligé. Il y a le viens et vois, mais après ça, les disciples, plus que Jésus avançait avec eux, plus qu'il leur disait, Jésus leur disait, viens et meurt. Que si tu n'es pas prêt à renoncer à ci ou à ça pour me suivre, disait Jésus, tu n'es pas digne de moi. Donc, comment est-ce que je peux discerner, et ça c'est un problème parce que, écoutez bien ce qu'il dit Alan Hirsch dans son livre Untamed, il dit, le langage d'être nourri trahit le fait que les gens assistent à la réunion ne sont pas des disciples, mais des consommateurs passifs. Je viens à l'église, pour chercher ma dose, pour chercher qu'est-ce que j'ai besoin pour faire la semaine. Malheur à nous. Parce que Les pasteurs, les enseignants et les évangélistes, ainsi que les paroles des prophètes et des apôtres, qui sont les enseignements du Nouveau Testament, sont des moyens pour nous perfectionner dans notre connaissance de Dieu, mais j'ai pas besoin de l'Église pour avoir ma dose de la semaine. J'ai besoin de mon pasteur, de pasteur Patrice, des évangélistes et tout ça pour m'aider à me nourrir moi-même en essayant de comprendre avec discernement les Écritures. Ils sont là pour ça, pour me perfectionner, pour que je devienne un homme ou une femme mature qui se nourrit d'elle-même de la parole de Dieu. OK, donc comment est-ce que je peux discerner si je suis dans une église pour moi ou que je suis dans une église pour les autres? Le test pour Alan Hirsch dans son livre, bon, ça ici, c'est quelqu'un qui dit « je suis pas nourri », ça c'est l'image du croyant. Je suis pas nourri. Ça veut juste dire qu'il est à un endroit où il ne peut pas manger pour lui-même. Mais plus qu'il va vieillir, plus que dans sa vie chrétienne, c'est pas normal de voir un gars de 30 ans têter sa mère. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais ce qui arrive dans l'Église moderne, on a des messieurs puis des madames de 30, 50, 60 ans qui têtent encore la tétine parce qu'ils ont besoin d'être nourris. Ils ont besoin d'être divertis, encouragés. Sinon, leur vie chrétienne va faire ça comme ça. Parce qu'ils ont gardé la tétine, puis ils ont gardé un lien avec l'Église juste de nourriture, alors que l'Église, c'est « Hey, je vais te montrer comment te faire un repas. Je vais te montrer comment rajouter des épices. » L'évangéliste vient, puis il met plus d'épices. L'enseignant, lui, vient mettre des patates. Il vient mettre, non, pas des patates, c'est pas correct. Des patates. D'autres choses. C'est une joke. OK, donc... Très intéressant. Donc, le test qui est proposé par Alan Hirsch, je l'ai-tu mis le test? Ah oui, il dit « Cessez de prêcher pendant 6 semaines. Fermez l'école du dimanche de manière temporaire ou enlevez le ban pendant quelques années. » OK, excusez, c'est drôle. Fermez ça et voyez ce qui va se passer. La fréquentation, la contribution monétaire et la contribution monétaire vont diminuer. Les disciples donnent au Seigneur, les consommateurs paient un service. C'est tellement vrai. Ça me frise les oreilles quand j'entends, hey, j'ai choisi votre église au lieu de l'autre parce qu'il y a 10 minutes de moins de route, je suis là. Là, t'es là, tu sais, ça me frise un peu parce que je me dis, j'espère qu'il va avoir la transition entre une église pour moi à moi pour l'église. Qu'est-ce que moi je vais pouvoir amener dans cette église-là? Et il faut avoir plusieurs conversions du cœur. Dans mon message la semaine passée, on a dit que ça prenait 3 conversions, hein, dont une, c'était la conversion de notre portefeuille, du prix que ça nous coûte. Mais ici, les disciples donnent au Seigneur. Ils sont là, ils savent. Eux autres, ils donnent parce qu'ils donnent au Seigneur. Puis ils savent qu'ils existent pour l'Église, mais les consommateurs payent pour un service. C'est correct de dire que l'Église, tu sais, quand tu vas, je sais pas, mon restaurant, tu payes pour ton restaurant. Quand tu vas à l'Église, tu payes, tu donnes. C'est correct d'avoir ces images-là, mais ce sont encore des images basées sur le consumérisme, c'est-à-dire je vais tirer un avantage, donc je vais payer. Ouais, mais être un disciple, c'est pas toujours d'en tirer des avantages, c'est d'être là pour un autre. Si je suis pas ici ce matin, Jean-Claude qui comptait me voir, il avait besoin de moi. Il avait besoin de mon encouragement. Donc, je suis là aussi pour les autres. Et donc, il faut arriver à cet endroit-là de passer ce test-là et dire, non, sais-tu quoi? Je le fais pour le Seigneur. Je donne une partie de mon temps, de mon argent, de ma présence pour les autres aussi. Ce matin, je suis là aussi pour les autres. Le consommateur va dire, qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Le disciple va dire, comment pourrais-je être le changement que nous désirons voir dans cette Église? Comment est-ce que je pourrais faire partie du changement de ce que nous aimerions voir arriver dans cette Église ou dans le monde? OK. Le premier problème qu'on a parlé aujourd'hui, c'est d'être... Oh, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Ça, je vais y revenir tantôt. Donc, notre premier problème, c'est qu'on est façonné par le monde dans une approche consumériste du monde. Le monde est défini par ça. Les gens vont chez Walmart parce que ça leur coûte moins cher. Je vais chez Walmart parce que ça me coûte moins cher. On va là où ce qu'on va avoir le plus grand avantage. Okay? On est façonné par le monde. J'en fais partie. Et donc, considérer l'Église comme un fournisseur de services et de produits qui me donne une identité, un sens ou une appartenance, ce n'est pas d'être entré encore dans la formation de disciples, c'est d'avoir été attiré sur les premiers, sur le parvis. Tant mieux, on attire les abeilles avec du miel. Tant mieux si on peut avoir plein de facteurs d'attraction. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Il faut aller à devenir, qu'est-ce qu'est vraiment l'Église? Est-ce que l'Église, c'est les quatre murs et tous les programmes qui la composent, ces chapelles, ces bâtiments, c'est ici, c'est ça? Les chapelles, dans le fond, les infrastructures, là, je parle pas d'un nom d'Église, là, je parle de ces bâtiments, de ces structures, de ces programmes. M. Dietrich Bonhoeffer a dit, l'Église n'est rien d'autre qu'une section de l'humanité dans laquelle Jésus a commencé à prendre forme. Wow! Pensez-y. L'Église n'est rien d'autre qu'une section de l'humanité dans laquelle Jésus a commencé à prendre forme. Qu'est-ce qu'on veut? On veut devenir un petit peu plus comme Jésus et que Jésus puisse prendre un petit peu plus de place en moi. Et pour que ça arrive, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a un prix éventuellement où ce que Jésus vient, il vit en moi, puis de plus en plus, c'est moi qui réduis, puis Jésus prend un peu plus de place. Donc, je suis là pour les autres. Je suis là pour l'Église. Et il y a cette conversion-là de passer d'une Église pour moi à une Église, moi pour l'Église. Maintenant, on va regarder le problème numéro 2. Je vous avais dit qu'on regarderait deux problèmes qui fait que l'Église en Amérique du Nord a un problème au niveau de la formation de disciples. Le numéro 1, c'est qu'on s'est laissé influencé par une pensée de brand, par une pensée commerciale de faire belonger les gens, les faire appartenir à notre marque de commerce, à notre formule, si on peut dire. La deuxième qu'on va parler, c'est limiter la formation de disciples aux croyants. Donc, une limitation de la formation de disciples. Si je vous disais, est-ce que la formation de disciples, c'est pour les croyants? Je viens de dire que le problème, c'était ça. Fait que vous allez me dire, je vais pas poser la question. Quand on dit que la formation de disciples est pour les croyants, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ceux qui sont en dehors du cercle, c'est ceux qui sont pas encore croyants, donc ce ne sont pas des disciples, ça s'adresse pas à eux. Ceux qui sont presque dans le cercle des croyants sont presque là. Donc, il y a une clôture. On va appeler ça l'approche de la clôture. Puis, quand tu fais partie des croyants, tu fais partie de ceux qu'on forme, de ceux qui sont à être formés à penser comme Christ. Si tu n'es pas encore un croyant, tu n'es pas appelé à être un disciple, on te laisse tranquille. Tu sais. C'est un peu ça l'idée. Okay? Donc, il y a cette idée d'être exclusif aux croyants. La formation de disciples, c'est pour ceux qui ont cru. Okay? Et donc, cette pensée-là, c'est que si tu en fais partie, on investit. Si tu n'en fais pas partie, on n'investira pas. Mais je vous pose la question, si la formation de disciples était pour les nations et non juste les croyants. Dans Matthieu 28, ça dit « Faites de toutes les nations quoi? Faites de toutes les nations des disciples. » Donc, j'aimerais nous encourager, si vous pensez que la formation de disciples, ça s'adresse que aux croyants, puis que ça ne concerne pas votre belle-mère qui n'est pas encore sauvée, votre coiffeur qui est évolutionniste, j'aimerais que vous revisiez votre façon d'approcher la formation de disciples, parce que Dieu vous a placé sur leur chemin pour que vous fassiez d'eux des disciples. Donc, il faut, si vous avez juste dit, ils viennent pas à l'église, ils ont pas besoin d'être formés, vous avez fermé vos opportunités d'avoir un impact dans le monde puis de vraiment d'être là où ce que Dieu veut que vous soyez concernant la formation de disciples. Il y a des fermiers, qu'est-ce qu'ils font pour prendre soin de leur troupeau? Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des clôtures. Et ça détermine, dans le fond, que leur bétail, ils vont rester proches de la nourriture parce que les clôtures les limitent à rester là. Ils vont rester proches de l'herbe, de l'eau et tout ça. Puis, les brebis du voisin, ils vont rester chez le voisin puis qui va avoir une démarcation comme ça. Donc, c'est une approche clôture. Mais il y a des fermiers qui ont des grandes terres que ça serait trop coûteux de faire des clôtures. Savez-vous qu'est-ce qu'ils prennent comme approche? Ils vont prendre l'approche d'un puits avec de l'eau vive qui fait que ça va centrer le troupeau au centre. Et donc, ils n'iront pas, au risque de leur vie, aller trop loin parce que là, ils vont s'éloigner de la source d'eau, de la nourriture. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de deux approches. L'approche de la clôture, c'est celle-là que j'ai commencé à parler, puis l'approche de l'eau vive, l'eau qui est au centre du terrain. quand vous regardez les évangiles, vous pourriez voir dans les évangiles que plus près du Seigneur Jésus, il y avait Pierre, Jean et Jacques. Un peu plus autour, il y avait les 12 disciples. Après ça, vous faites une autre bulle, vous allez vous apercevoir qu'il y a les 120 disciples qui étaient là, qui voyageaient beaucoup avec le Seigneur, qui écoutaient son enseignement. Puis dans Jean 6, on voit des milliers de personnes qui allaient avec Jésus. Donc, si plus vous êtes loin du cercle, plus vous êtes dans la gang des milliers, plus vous entendez des gros mots, plus vous entendez des gens qui vivent vraiment pas selon le maître. Puis plus que vous approchez, puis que vous tenez avec les 120, ben vous voyez aussi des affaires qui sont pas comme le maître nécessairement. Tu sais, c'est comme les gens qui sont des disciples, mais tu sais, ils ont commencé à s'approcher, mais ils sont pas comme dans les 12 qui ont vécu 3 ans et demi avec, tu sais. Fait que plus que tu t'approches, plus que tu devrais trouver les enseignements du maître et que tu devrais trouver des gens qui vont te donner des réponses qui sont plus conformes au maître. Ben, les disciples, c'est un peu la même affaire. Vous savez que les disciples ont été formés pendant 3 ans et demi puis ils étaient pas nécessairement nés de nouveau. Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas, puis Jésus les prenait avec lui, il les enseignait. Puis à un moment donné, Pierre, qui dit dans Matthieu 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu sais, puis il a dit qu'il était le Messie envoyé par Dieu. Pierre est né de nouveau là où il était né quand il a cru ça, puis il l'a confessé. Hein? C'est ça que ça prenait pour être sauvé quand Jésus était sur la terre. C'était de croire que Jésus était le Messie puis qu'il avait été envoyé par Dieu. Donc, pendant 3 ans et demi, Jésus enseigne ses disciples, puis à un moment donné, ils naissent de nouveau. Donc, si on prend une approche qui est différente, c'est celle du puits, eh bien, les nations sont des disciples de Jésus, sont appelés à être des disciples, mais ils ont un processus qui est différent et donc tous ne sont pas proches de Jésus puis qui ont peut-être pas compris la nouvelle naissance puis tout ça. Je pense que je l'ai ici. Regardez bien le continuum. Au lieu de dire t'es pas un croyant, t'es pas un disciple, t'es un croyant, tu peux commencer à être formé comme un disciple. Regardez le continuum, c'est-à-dire les étapes du processus continu de devenir un disciple. Et à quelque part, vous êtes à moins 6 ou à plus 6 sur cette charte-là. On part. Vous allez chez votre garagiste, puis lui, il croit pas qu'il y a un être suprême. Puis à parle, vous finissez par le convaincre que c'est-tu possible que quelque chose de si structuré vienne de quelque chose qui est pas structuré. Puis là, le garagiste, il dit, hey, tu m'en poses toi des cas, tu me fais réfléchir. Prochain rendez-vous, tu reviens. Il est prêt à considérer qu'il y a un être suprême. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Des fois, on dit, je l'ai pas amené à Christ, j'ai pas eu de succès. Vous avez amené le doute sur ses doutes et la foi sur la foi. Donc, il a commencé à passer de moins 6 à moins 5. Il commence à penser, là, il commence à être ouvert, ben, d'abord, pourquoi, puis pourquoi Jésus, puis la bonne nouvelle. Donc, il y a un être suprême, moins 5, j'ai été exposé à la bonne nouvelle. Je commence à voir qu'il y a un problème. Là, il commence à voir le péché. Il voit Jésus, pourquoi il est venu, le péché, le pardon, tout ça. Il commence à voir qu'il y a un problème. Il est en train littéralement d'être un disciple, c'est-à-dire que dans sa formation, il a pas passé de jeudi à vendredi à croire qu'il y avait un être suprême, qu'il y avait une bonne nouvelle, que Jésus-Christ était mort pour lui, puis que là, il s'est repenti, puis que là, il est rendu, qu'il fait des disciples. Mais vous avez le succès suivant. C'est que vous avez fait de lui un disciple parce que vous lui avez appris qu'il y avait des bonnes raisons, qu'il y a un être surnaturel. Vous lui avez parlé de la bonne nouvelle, il l'a pas encore accepté, mais il commence à voir qu'il y a un problème en lui, il est rendu à moins 3. Puis là, on descend comme ça, puis à un moment donné, il décide d'agir, il place 100 fois en Christ, puis pouf, zéro. On pourrait dire que le moment zéro du continuum d'être un disciple, c'est d'être né de nouveau. Ça arrête pas là, ça commence là, mais l'Église de masse arrête là, puis on repart. L'Église qui est basée sur la consommation, on fait ça, puis on souhaite que... Regardez, là, ça continue. Là. Le problème dans l'Église de masse, c'est que je dis aux gens, tiens, je t'en ai amené un. Tu sais, je t'ai amené le poisson, nettoie-le. Alors que c'est à nous autres de continuer ici jusqu'à temps que c'est moi qui me reproduise. Okay? Donc, ici, la personne vient d'accepter le Seigneur, elle évalue la décision qu'elle vient de prendre, elle tombe à plus 1. Elle commence à coter ses soldats à savoir si elle pourrait se lever le dimanche pour venir à l'église. Est-ce que c'est un sacrifice qui en vaut la peine? Elle se joint à l'Église, paf! Là, qu'est-ce qu'elle s'aperçoit? Elle s'aperçoit qu'elle grandit par la foi, puis que, dans le fond, elle commence à apprendre à se nourrir de la Bible, à lire la Bible, puis vous l'accompagnez dans ce processus-là. Puis peut-être c'est là que vous êtes. Peut-être que c'est là que vous êtes. Puis cette personne-là réalise que sa foi l'amène à une communion avec le Père. Puis, après ça, elle réalise en communion avec le Père qu'elle a aussi des dons, des capacités qu'elle doit mettre au service des autres et que donc elle a reçu un ministère aussi lorsqu'elle a accepté le Seigneur et qu'elle doit administrer son temps, son argent, ses ressources pour le royaume de Dieu. Et elle est là pour l'Église, puis là, elle avance. Puis là, arrive cette idée de se reproduire, c'est-à-dire comment, moi, je pourrais aider une personne à passer d'ici jusqu'à là. Quand est-ce que Jean-Claude, que si je viens pas à l'église dimanche, il viendra pas la semaine prochaine parce qu'il est faible dans sa foi, il va passer à cette étape-là jusqu'à l'étape de dire non, j'ai un don, j'ai un ministère, je vais à l'église pour les autres aussi, puis il commence à servir lui-même dans un ministère, puis ça, il amène d'autres personnes à Jésus. Ça, c'est le continuum proposé. Au lieu de dire chrétien, disciple, pas chrétien, pas disciple. Tu dis, non, mais la prochaine fois, je vais parler à mon garagiste, je vais avoir ça dans ma tête. C'est vrai, je suis là, moi, pour assister. Puis, est-ce que je suis obligé de dire à mon garagiste, hey, je vais te donner un cours pour te montrer qu'il y a un être suprême? Pas en tout. Les gens n'aiment pas ça se faire montrer des choses. Mais tu peux jaser, jase. Puis, à un moment donné, tu es le sel de la terre, puis ils ont soif, puis ça les amène à réfléchir. Donc, élargissons notre idée de c'est quoi la formation de disciple. Ça va nous aider. Un autre limite qu'on met sur la formation de disciples, c'est qu'on limite ça au leader. J'en ai parlé tantôt. J'ai attrapé le poisson, nettoie-le. Hein, souvent, moi, j'allais à la pêche avec mon père, puis quand je payais un crêpe à soleil, j'y donnais. Puis là, lui, il payait le crêpe à soleil, puis il l'assommait sur le bateau jusqu'à temps qu'il bouge plus. Puis là, après ça, il le décrochait, puis le renvoyait à l'eau. Fait que c'est comme ça que j'ai appris à prendre soin des bêtes. Mais moi, je voulais pas les écharpes dans mes mains, tu sais. Donc, on limite la formation de disciples aux leaders. Si quelqu'un, OK, écoutez bien. Si vous, votre but, là, ça serait de détruire, en tout cas, c'est un petit démon, là, puis vous voulez détruire dans l'Église la formation de disciples, le pouvoir transformateur du corps de Christ comme un mouvement. Alors, la création d'une division entre le clergé et la laïcité est un plan de génie. Qu'est-ce qu'on dit dans cette idée-là? C'est une des plus grandes catastrophes pour vider les églises de vrais disciples. Ça vient supprimer le fait que tous les croyants sont maintenant des prêtres. La réforme, quand la réforme est venue, il y avait le clergé qui avait la connaissance de Dieu, les dons de Dieu et tout passait par les leaders. Puis les gens du peuple, là, tu sais, eux autres, là, il n'y avait pas un chemin direct à Dieu, puis eux autres, c'était comme les gens du peuple. La réforme n'est pas venue abolir la prêtrise, elle est venue élever la prêtrise en disant que tous les croyants étaient un prêtre devant Dieu, qu'ils avaient accès aux mêmes grâces, aux mêmes ressources. Hein? Et donc, ça là, c'est une doctrine infernale de séparer le clergé des laïcs parce que les gens du peuple se sont dit, de toute façon, moi, comment je pourrais amener quelqu'un au Seigneur? Moi, je suis pas évangéliste, je peux pas parler. Moi, je suis pas un enseignant, c'est pas à moi de montrer rien à personne. C'est au leader, c'est à l'enseignant. C'est à l'évangéliste. Et ça, ça l'a impacté que même après la réforme, on pense encore, tu sais, « Hey, sais-tu quoi, si on amène quelqu'un au Seigneur, ben, il faut que je l'amène à l'évangéliste dans mon église, tu sais. C'est lui qui va y expliquer. Moi, je sais pas comment expliquer. On sait pas de quoi on a été investi, puis on l'utilise pas parce qu'on s'est fait avoir dans une idée que la mission et la formation de disciples appartenaient au leader. Et donc, c'est une doctrine infernale parce que ça vient démobiliser le corps de Christ. Je vous laisse sur une église, sur une île avec 5 personnes. J'en ai parlé tantôt en classe cette semaine. On nous a demandé si on vous laissait sur une île avec 5, tu sais, vous auriez 5 choses que vous voudriez garder. Et c'est la première fois que je l'ai verbalisé de même là dans la classe. Moi, j'ai dit qu'il y avait la Bible qui en faisait partie. Je voulais vivre physiquement, donc ça me prenait une loupe, du plastique en rouleau. Ça me prenait. Puis on a tout négocié ça. Puis dans le fond, ce qu'ils voulaient voir, c'est si on était capable de négocier quand on n'avait pas les mêmes priorités. Puis moi, dans mon équipe, il y a quelqu'un qui amenait des livres. Puis lui, il était bien artiste, fait qu'il amenait des choses pour faire de l'art. Puis en parlant ensemble, il a réalisé qu'il avait besoin de vivre aussi, pas juste de s'amuser sur cette île-là, qu'il fallait survivre. Fait qu'il a changé comme son art pour des outils pour couper des branches. Mais ça, si on a vraiment faim, ça, là, c'est pour couper des bras. Puis j'ai dit, ils ont demandé comment on avait négocié ensemble. Ben j'ai dit, moi, lui, il voulait avoir de la lecture pour son âme, puis moi, ben je voulais la Bible, parce que c'est beau de vivre sur la terre, mais si t'as pas de but, fait que moi, j'ai besoin de la Bible. T'sais. Fait que je l'ai dit devant la classe, comme ça. Bon, pour en revenir, on va changer ce scénario-là. Vous êtes sur une île déserte, puis vous allez survivre. C'est sûr que vous avez besoin de choses pour votre survie. Bon, on va dire que vous avez une Bible. Puis, il y a 5 autres non-croyants avec vous. Vous êtes le seul croyant. Vous connaissez la bonne nouvelle de Jésus. Et on vous laisse, et vous êtes le seul chrétien. Et je vous pose la question, comment allez-vous y prendre pour former des disciples? Là, tu peux pas te tourner vers le leader, l'évangéliste, le formateur. Personne pour répondre aux questions, sauf toi. Si votre réflexe naturel, c'est « je ne peux pas » parce qu'il n'y a pas d'église à laquelle les amener, vous avez dans votre tête une dichotomie, c'est-à-dire une séparation dans votre pensée, comme ça, et vous êtes tombé dans une vision consumériste de l'église, c'est-à-dire « comment tu veux que je fasse des disciples, il n'y a même pas d'église? » Bien, ça veut dire que vous êtes un consommateur passif de l'église. Tant qu'il y aura une église, ça va marcher le christianisme, mais s'il n'y a plus d'église, vous n'êtes pas l'Église. Et ça, c'est un problème. Donc, en chacun d'entre nous, il y a l'Église. C'est-à-dire la semence de l'Église. C'est que je suis chrétien, né de nouveau, et dès que je vais amener une autre personne à croire au Seigneur Jésus-Christ, ensemble, on va être l'Église. Mais il y a tout ce qu'il faut sur cette île-là pour avoir une Église, dont vous êtes la pastille ou le pasteur. Parce que vous êtes le premier à être là. OK? Donc, je veux juste qu'on perde pas la foi de qu'est-ce qu'on a reçu. Puis souvent, quand il y a d'autres dons qui sont là autour, ben on se cache. On se dit, ah, ben ça n'a pas besoin d'arriver par moi. Ben il y en a plein d'îles désertes. Il y a plein d'îles désertes. Les îles désertes, là, c'est quoi? C'est quand que ta belle-sœur, elle vient de perdre son mari qui l'a trompé. Qu'elle se tourne à gauche, puis qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve de la psychologie. Elle trouve des pensées modernes. Elle trouve un gars qui court après au bureau. Aller dans un désert. Vous savez que quand les gens vivent des coups durs, c'est là qu'ils sont prêts à réévaluer le sens de leur vie, la direction de leur vie et leurs valeurs. Ils sont prêts à faire des grandes négociations. Quand une personne vient de déménager pour l'emploi, trouve une nouvelle maison, achète une nouvelle voiture, vont remarquer qu'ils changent bien des choses dans leur vie. C'est là que les gens sont prêts aussi à réévaluer leurs croyances et leurs valeurs. Donc, dans un temps de désert, où ce que la parole ne sera pas fréquente autour d'eux, vous allez être là pour eux autres. Donc, la réalité, c'est que nous sommes, nous qui croyons, l'Église, et j'ai dit que l'Église, c'était une partie, Bonhoeffer a dit ça tantôt, une partie d'humanité dans laquelle Jésus a commencé à régner ou a commencé à vivre. Ça, c'est l'Église. C'est pour ça que je dis qu'en chacun d'entre nous, il y a l'Église. Donc, dès que vous serez deux à croire au Messie, le Seigneur Jésus-Christ, votre Église va s'agrandir sur cette petite île-là et les autres auront alors plus d'opportunités de se convertir et faire partie, eux aussi, de cette Église-là où Jésus pourra vivre dans cette partie d'humanité-là un peu plus grande. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les aider à passer de « il n'y a pas d'être suprême » à, dans mon graphique, « je » me reproduit dans j'amène d'autres personnes à croire. OK, la conclusion. Aujourd'hui, le message a tenté de répondre à la question pourquoi l'Église moderne a perdu son sel. La manière pas son cellulaire, son sel, S-E-L. Nous avons pris deux grands axes. Le premier, que l'Église a une vision consumériste. Nous avons une vision consumériste de l'Église. Et que nous sommes impactés par la culture et que c'est la culture qui nous a transformés, c'est pas nous qui est en train de transformer le monde, parce qu'on essaie de faire trouver notre identité, notre but et notre valeur et notre appartenance dans les services qui sont offerts et des produits qui sont consommés, et on veut présenter l'Église au monde de cette manière-là seulement. On a vu au début de mon message qu'on a besoin de passer d'une Église pour moi à moi pour l'Église. Ensuite, si ça arrive pas, la personne qui est venu parce que c'était à 5 minutes de chez eux, ça va déjà être trop loin de venir éventuellement. Okay? Donc, il faut que la personne ait cette conversion de cœur-là. Limiter la formation de disciples à un petit nombre, c'est un problème qu'on avait aussi identifié dans mon message. Donc, on avait une pensée de clôture, peut-être. La pensée de clôture dit, ben, la formation de disciples, c'est juste pour les croyants. Tant que t'es pas croyant, je te laisse tranquille. Au lieu de, non, si tu crois pas à un être suprême, moi, je suis été placé à côté de toi pour t'influencer à croire, oui, qu'il y a un être suprême, qu'il y a une bonne nouvelle, qu'il y a un problème dans notre cœur, etc. On a vu une pensée qui était plus de puits. C'est-à-dire, voici, il y a un puits. Plus t'es proche du puits, plus t'es proche de Jésus, plus que t'es proche de la vie. Et donc, que la formation était pas pour les croyants, était pour les nations dans Matthieu 28. Et plus on se rapproche du puits, plus on entre dans le plan de formation de disciples que Jésus a prévu pour nous. Et donc, c'était de passer d'une pensée, je pense que je l'ai mis ici. Ah, c'est ça. En tout cas, regarde. D'une pensée de la formation, c'est pour les chrétiens, à une formation, c'est pour le monde. C'est sûr que, comme je disais à mon garagiste, j'ai dit pas que je vais lui donner un cours. Je l'influence. Dernièrement, je suis allé voir un professionnel, puis ça fait 2 fois que je vais voir cette personne-là, puis je vais la voir à chaque mois ou au mois et demi. Ça dépend de... Puis, je vous dirais que ça change de rencontre en rencontre. Au début, il y avait cette ouverture à l'aide suprême. Et la dernière fois, j'ai mis l'emphase sur la lecture de la Bible puis comment c'est venu me rejoindre. Ben, je vais passer à la bonne nouvelle bientôt de ce qu'il y a dans le livre, prochain mois. C'est ce qu'on fait. Donc, c'est pas parce que je suis pasteur de l'Église, c'est parce que je suis chrétien que je fais ça. Donc, on a vu dans la deuxième partie de mon message aussi que c'était, on avait réduit la pensée que les gens qui font le ministère, c'est à eux autres de faire des disciples. C'est à eux autres d'évangéliser. L'évangéliste, faut qu'il évangélise. Le pasteur, faut qu'il pasteur. Puis, le chrétien, il fait quoi, lui? Il vient consommer un produit, un service? Non. Il est le sel et la lumière de son environnement, du monde. Donc, au début de mon message, j'ai dit que c'était un message qui était difficile à enseigner. Parce que, présentement, ça va pas dans ma vie, dans cet endroit-là. Je veux dire, la business, l'église et l'école, c'est un bien beau vouloir, mais comme Paul dit, la volonté est bonne en fonction de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Par contre, je sais que je suis dans une saison, puis ça me rend anxieux de prêcher là-dessus parce que je suis pas en train de faire qu'est-ce que je voudrais faire. Par contre, je donne une direction. Je crois quand même que, comme quand on va chez le garagiste et qu'on répare un pneu qui désalignait la voiture vers un côté, je pense que le message sert quand même d'alignement. Que je nous ai placés devant des choix entre une église pour moi ou moi pour une église. Une église qui forme des croyants ou une église qui forme le monde. Je pense que je nous ai amenés à réfléchir quand même sur ces points-là. J'ai aussi parlé d'un enfant à la mamelle, que quelqu'un qui vient à l'église pour les services qu'il y reçoit, s'il demeure là, ça devient à un moment donné, à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, bizarre qu'un homme boit encore à la tétine. Non pas qu'on y recevra pas des soins. Non pas qu'on y recevra pas ce que nous, on a besoin d'avoir. Mais on est là pour aider d'autres, on est là aussi pour les autres. Et pas juste pour y trouver notre compte. Fait que finalement. Ah, passant, le scénario de Lille, c'est pas dans un an. Mais je vous pose la question, puis je vais prendre des réponses. On vous laisse dans un an. On vous parachute sur une île avec 5 non-croyants. Vous avez un an pour vous préparer. Faites quoi? Vous avez un an. Êtes-vous prêt? Il n'y aura aucun autre chrétien que vous. Vous êtes le seul représentant de l'Évangile là. Vous faites quoi? Vous avez un an. Vous faites quoi? Votre année, elle va te changer? Tu pratiques le parachutisme pour être sûr d'être vivant pour l'évangéliser. Philippe, 2 morceaux de robot. Qu'est-ce que vous faites votre prochaine année? C'est que dans un an, c'est prévu que vous allez tomber naufragé sur une île avec 5 non-croyants. Puis vous êtes la seule représentation de l'Évangile sur cette île-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un an. Vous avez un an. On prie. On prend de la formation. Pourquoi on prend de la formation? Oui. Pourquoi pas juste des... C'est quoi? Des cours bibliques, Juliane, elle écrit. Formation biblique, c'était... Tu as volé. Tu l'as volé à Sylvain. Pourquoi de la formation biblique? C'est vrai, hein? Surtout avec le continuum de formation qu'on a parlé, là, où ce que justement, ils croient pas à une aide suprême. Fait qu'il faut que tu les amènes, tu sais, il y a tout un chemin à faire avant même de leur parler de l'Évangile, puis du péché, puis tout ça. Oui, donc avoir à être cultivé. Hein? Croire, placer notre confiance dans justement ce matériel-là. Donc, vous avez des gens clés dans l'Église que vous allez aller voir pour différentes choses. Qui vous allez aller voir? Tu allais voir Gilles. Pourquoi tu vas aller voir Gilles? Parce qu'il est beau, parce qu'il est ferré, parce qu'il est ferré dans ses croyances, il y a de l'air convaincu. Qui vous allez aller voir? Là, on ne parle pas de nom, on parle de poste. Oui, les enseignants. Pourquoi? Tu vas-tu écouter juste parce que ça te fait du bien? Où tu vas écouter avec un certain mind, Mais pourquoi tu vas aller les écouter, ces gens-là? Pour avoir des réponses ou plus qu'avoir des réponses? Voyez-vous la différence entre à chaque fois que je viens à l'église, j'ai des réponses. Je fais de l'embonpoint chrétien. Tandis que je viens à l'église parce que je m'en vais dans ce voyage-là, puis ils vont me la poser, cette question-là, puis je veux être capable de répondre à ma belle-sœur, à mon beau-frère, quand ils vont arriver dans la sécheresse de leur vie, je veux être capable de leur donner des réponses. Voyez-vous le switch qui se passe quand on sait qu'on s'en va sur une île? Bon, OK, c'est la semaine prochaine. Ben, peut-être que c'est lundi pour vous, ça. Peut-être que c'est lundi pour vous. Pour être capable de leur poser. Oui. Bon, les questions qu'eux vont nous poser, là, les enseignants les connaissent, ces questions-là. Puis l'évangéliste, il connaît les questions qui fait qu'une personne ne veut pas se convertir. Fait que des fois, on va aller cogner à la porte de l'enseignant pour lui dire c'est quoi les réponses à donner. Puis des fois, on va aller voir l'évangéliste et on va dire c'est quoi les questions qu'ils vont me poser. Fait que je veux juste qu'on voit que les évangélistes, les pasteurs puis les enseignants, les pasteurs, Gilles, c'est un cœur de berger sur pattes, je veux dire, c'est un soigneur, c'est le cœur de Jésus pour le soin. T'sais, souvent, il y a quelqu'un qui va pas bien, c'est Gilles qui en parle. T'sais. Gilles, c'est un grand cœur pour ça. T'sais. Puis il y en a d'autres hommes qui ont ces caractéristiques-là aussi ici. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir besoin de prendre soin dans cette nouvelle église-là sur l'île. On va aller voir Gilles aussi pour lui dire que comment on va prendre soin du monde, tu sais. Donc, Dieu donne dans l'Église des pasteurs, des enseignants, des évangélistes, puis tout le Nouveau Testament pour nous montrer comment être l'Église. Okay? Et donc, si on savait qu'on était pour être parachuté dans un an, on agirait différemment en fonction de nos rassemblements, en fonction de nos cours bibliques, en fonction de l'évangéliste. On poserait plus de questions à l'évangéliste, plus de questions à l'enseignant, puis des questions au berger pour prendre soin. Tu sais, Gilles, tu peux aller le voir pour ta sœur qui vit quelque chose. Comment tu approcherais ça, Gilles? Non. Dieu a donné le don de berger. C'est pas juste pour prendre soin de ceux qui vont pas bien ici. C'est pour nous montrer à prendre soin des nôtres. Vous allez voir un gars comme Gilles, par exemple. Hein? Oui, tu trouves que c'est un bon exemple? Je vais juste te donner le micro pour l'enregistrement. Ah, j'ai pas le micro. Je vais répéter.
Ton exemple est bon, que tu as donné sur une île déserte, parce que c'est vrai que, comme tu dis, on donne des fois toutes sortes de raisons pour évangéliser. Mm-hmm. Moi, je suis pas bonne là-dedans, je peux pas dire.
Puis il y en a d'autres.
Mais là, on devrait toujours penser qu'on est sur une île déserte avec les cinq personnes.
Oui, parce que dans ton environnement, regarde combien de chrétiens qu'il y a.
C'est ça. ça.
Il n'y en a pas tant que ça.
Là, moi, là, en tout cas, je vais m'en sortir, c'est sûr, sûr.
C'est bon.
Fait que ça va être pas mal plus facile. En tout cas, je trouve que ça va être plus facile en pensant.
Bon, radio. Alors, commentaire ou question sur le message. Je sais que c'est un brassage de cage. Là. Je nous brasse toute la gang. Je dis, hey, où c'est que t'es? Où c'est qu'on est? Fait que, vous pouvez dire aïe aïe au lieu d'amen. Pas de problème. Commentaire ou question sur le message. On va arrêter l'enregistrement.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.